C'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur l'annonce de la création d'un revenu universel d'activité faite par le président de la République.
Oui, ce dispositif a été présenté le mois dernier par le président Emmanuel Macron comme l'une des pierres angulaires de sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Or, ce qui nous intéresse justement avec ce revenu dit universel, c'est qu'il n'a d'universel que le nom. Le président a ainsi présenté les grandes lignes de cette allocation qui devrait fusionner, je cite, le plus grand nombre possible de prestations et dont l'État sera entièrement responsable. Cette allocation unique viendrait donc remplacer les multiples minima sociaux versés par l'État et serait, grande nouveauté, versée automatiquement à ses bénéficiaires. Cette automaticité du versement serait ainsi une véritable avancée puisqu'elle permettrait de réduire drastiquement le non-recours à ces aides sociales. Ce sont aujourd'hui ainsi près de 30% de ces allocations qui n'atteignent jamais leurs bénéficiaires. En cause, la complexité des démarches, la méconnaissance des droits ou une forme d'embarras et de fierté qui pousse les allocataires potentiels à ne pas effectuer leurs demandes.
On peut donc parler d'une allocation unique et automatique mais pas universelle, Arjuna.
Non, et pour la simple raison que son versement serait soumis à des conditions de ressources et qu'il impliquerait des contreparties de la part des allocataires. Des devoirs, selon les mots du président. Or, comme le rappelle un article du Monde, le revenu universel dans son acception la plus commune, défendue notamment par le Mouvement pour un revenu de base repose sur plusieurs critères d'inconditionnalité, d'universalité, d'automaticité et sur la possibilité pour les bénéficiaires de le cumuler avec d'autres aides ou revenus. Hors de ces critères, le dispositif macronien n'en reprend qu'un.
On peut donc s'interroger sur les raisons qui ont poussé le président à parler de revenu universel.
Oui, et on touche en réalité ici à une torsion assez classique du langage par le politique. Le double objectif pour le président de la République est ici non seulement de reprendre à son compte la valeur symbolique que véhicule ce terme, mais aussi dans un même mouvement de priver ses adversaires de son usage. Ainsi, le revenu universel renvoie à un imaginaire très fort qui touche, selon la conception qu'on en a, des partisans de droite comme de gauche. En reprenant à son compte ce terme, brinque-ballé d'une définition à l'autre, d'un parti ou d'une sensibilité à l'autre, le président de la République opère en réalité un travail de capture et de fixation du réel. À l'avenir, avec la mise en place de ce dispositif, il pourra se targuer d'avoir mis en place un revenu universel, intégrant, épuisant même par la force du politique les contradictions et les mensonges d'une telle affirmation.
Ce pouvoir du langage et sa capture progressive par le politique a d'ailleurs été mis en lumière par de nombreux intellectuels.
Oui, depuis les linguistes et les philologues, analystes des usages du langage, jusqu'aux travaux d'Éric Hazan, qui dans un ouvrage intitulé « Lingua quinte respublicae » où la propagande au quotidien se livre à une critique sémantique de la Ve République. Pour l'auteur, la LQR, cette hybridation postmoderne de la langue, a largement contribué à la mise en silence, à la mise en berne même des conflits politiques, économiques et sociaux. En opérant un travail d'euphémisation du réel et d'essorage sémantique, selon les mots de l'auteur, cette novlangue utilisée par les hommes politiques permet de cacher dans les replis d'un langage fade et normé la réalité des décisions politiques. En clair, les mots sont vidés de leur sens ou utilisés pour ce qu'ils ne sont pas, à des fins de pouvoir et de dissimulation. Les politiques emploient ainsi une série de termes qui, derrière leur apparente neutralité, véhiculent en fait une vision du monde cohérente avec leurs intérêts. Ainsi, pour légitimer le contrôle des chômeurs, on parle d'assistanat, on ne parle plus de cotisation sociale mais de charges, plus de licenciement mais de plan de sauvegarde de l'emploi. Le langage travaille en éclaireur de la pensée, il opère une œuvre de transformation politique si puissante qu'il parvient à nous faire épouser des logiques et des causes qui nous seraient a priori étrangères. En opérant ces hold-up sémantiques, les politiques brouillent encore plus les lignes d'un clivage politique qu'ils prétendent dépasser. Éric Hazan va même plus loin et explique dans la revue Regard que le but de cette langue fantôme est bien de faire accepter l'inacceptable, de légitimer des réformes incessantes, qu'elles aillent ou non dans le sens du bien commun.